des briques et roses de surcroît. C'est principalement ce qu'on retient de l'architecture à Toulouse. Or, avec les briques, viennent les galets de la Garonne. Vous en avez justement sur le mur de la grave derrière vous. Les cailloux ronds alignés entre des rangées de briquettes, ça vous parle ? Ces galets toulousains ont toute une histoire et sont essentiels à la biodiversité du fleuve. Pourtant, ils se font de plus en plus rares. Si l'on remonte le cours de la Garonne vers sa source, si l'on serpente le long de ses rives, frôlant les herbes, grignotant des masses rocheuses, on pourra constater combien l'eau érode ses berges, arrache des pierres à la montagne et emporte avec elle le sable de ses flancs. Durant sa traversée de la source à l'océan, le fleuve s'est chargé des produits de cette érosion, et notamment de ces roches roulées par la force de son débit, polies, arrondies, amoindries et promues à un devenir marin. Un galet dans un fleuve est une véritable pierre portée à l'édifice de la biodiversité. Un tapis de galets forme une couche granuleuse, un socle de creux et de plains qui fourniront des abris aux larves d'insectes aquatiques et aux poissons pour se reposer, se cacher ou pondre, frayer, dit-on dans le jargon. Des sangsues s'y fixent par la bouche. Une couche d'algues et de bactéries appelées biofilms s'y forme, servant de nourriture notamment aux crevettes d'eau douce, comme la nocturne caridine, qui fait le régal des larves de la corduli à corps fin. Cette libellule, elle-même proie de choix pour l'aigrette garzette, ce bel échassier. Partant du galet, on peut déplier des chaînes alimentaires qui s'appuient sur un réseau d'espèces végétales et animales jusqu'à la surface où les potamos noueux, ces grands herbiers dont on aperçoit les feuilles flotter au-dessus du fleuve, servent aux libellules pour se reposer et boire, et aux limnées, ces petits coquillages au chapeau pointu, qui viennent s'y nourrir et y pondre. On voit bien que contrarier une espèce risque par ricochet d'en perturber une autre. Mais des ricochets, on n'en fait plus, parce que des galets dans la Garonne, il y en a de moins en moins, et ce pour plusieurs raisons. Au cours de leur voyage, les galets se heurtent désormais massivement aux différents obstacles que sont les seuils et les barrages, où ils restent prisonniers, désertant ainsi le lit du fleuve. La dynamique de la Garonne s'en trouve contrariée, puisque sans les galets, son lit subit le flot de l'eau plus fortement et se creuse. En plus, depuis les années 60 à Toulouse, le cours de la Garonne a été chenalisé, corseté par 16 km de digues pour permettre le bâti et prévenir les inondations. Or, le fleuve a parfois besoin de s'étaler sur son lit majeur, la partie inondée en cas de crue, pour lécher ses rives et y récupérer des cailloux, ce qui ne lui est plus permis. À cela s'ajoute le fait que jusque dans les années 90, on prélevait des galets directement dans le lit mineur, son lit quotidien, pour alimenter nos constructions et orner nos murs. Certains pensaient même que plus il y a de cailloux dans un fleuve, plus il déborde. Les enlever, c'était donc lutter contre les crues et faire d'une pierre deux coups. Le résultat n'est pas glorieux. Le lit de la Garonne est désormais marneux. Il a des allures de dalles stériles. L'artificialisation du cours d'eau a rompu la continuité fluviale, ce qu'on appelle la trame bleue. Au final, cela fait plus de tort à la biodiversité que la mauvaise qualité supposée de l'eau, qui certes y a nui par le passé, mais qui s'est considérablement améliorée ces dernières années. Bref, les habitudes du fleuve et de ses habitants sont contrariées, ce qui conduit à la disparition d'espèces et à un appauvrissement progressif de la biodiversité. La grande mulette, une moule pouvant atteindre 20 cm et vivre 80 ans, en a fait les frais. Très commune en Europe de l'Ouest, notamment dans la Garonne jusqu'au début du XXe siècle, elle a vu sa population chuter au point qu'on l'a cru un moment totalement disparu. Sa grande sensibilité au changement d'environnement et le fait qu'elle dépende pour se reproduire d'un poisson hôte, l'esturgeon européen, la rendent particulièrement vulnérable. Attardons-nous sur son cas et entrons dans l'intimité de ce mollusque bivalve. La grande mulette féconde ses œufs à même la coquille. Lorsque son poisson hôte, l'esturgeon, passe à sa hauteur, elle expulse un jet blanchâtre contenant ses larves qui vont se fixer dans les branchies du poisson. Celui-ci se retrouve ainsi malgré lui chargé des futures moules pendant 4 à 5 semaines, le temps de les nourrir et qu'elles grandissent suffisamment pour le quitter et s'enfouir dans les sédiments pour former de nouveaux mollusques. Mais manque de bol pour la mulette, l'esturgeon européen, le sturio, a quasiment disparu à l'état sauvage. La Garonne est bien un des rares fleuves où on le trouve encore aujourd'hui, mais c'est grâce au lâcher des scientifiques, puisqu'il ne se reproduit plus naturellement depuis les années 1990. Or, la grande mulette est difficile. Ce qui fait que sans esturgeon, elle a du mal à confier ses larves et à assurer son cycle de vie biologique. Et pourquoi l'esturgeon, ce grand poisson dépourvu d'écailles, au corps allongé, terminé par un museau, a un rostre pourvu d'une barbichette à quatre barbillons et qui a survécu plus de 250 millions d'années sur Terre? Il est plus vieux que les dinosaures. Oui, pourquoi l'esturgeon est-il en danger d'extinction? Eh bien, pour plusieurs raisons. La surpêche d'abord, encouragée par le commerce très lucratif du caviar. La régulation du débit des rivières ensuite et la destruction de ses habitats naturels, enfin. On revient ici au manque de galets. Ce qui est vrai pour l'esturgeon l'est aussi pour les 8 espèces migratrices que l'on trouve dans les eaux de la Garonne, à savoir la truite de mer, la lamproie marine, l'alose feinte, la grande alose, l'anguille européenne, le saumon atlantique et la lamproie fluviale, qui a toutes les caractéristiques de poisson hôte pour la mulette, mais qui est elle aussi vulnérable. Les poissons migrateurs vivent alternativement en eau salée et en eau douce, deux milieux indispensables à leur fonctionnement vital de reproduction et de croissance, et ont le plus souvent des cycles biologiques très longs. Par exemple, l'esturgeon, comme l'anguille, doivent parfois attendre l'âge de 15 ans pour pouvoir se reproduire. La plupart des migrateurs grandissent en mer et se reproduisent en rivière. Seule l'anguille se reproduit en eau salée et se développe en eau douce. Or, pour accomplir son cycle de vie, elle parcourt environ 10 000 km et traverse deux fois l'Atlantique. C'est long. On voit bien qu'en les empêchant de circuler librement, on perturbe leur cycle de vie et que progressivement, ces espèces sont devenues vulnérables, voire en danger critique d'extinction, comme l'anguille et l'esturgeon. Vous l'aurez remarqué, vous avez en face de vous l'un de ces obstacles. Le principal à Toulouse, la chaussée du Bazacle, construite au XIIe siècle sur un gué naturel de la Garonne et sur laquelle on a installé à la fin du XIXe siècle une centrale hydroélectrique. Or, comment franchit-on le saut quand on est poisson? Depuis 1987, on peut le faire grâce à une passe à poisson, un genre de corridor qui aide les migrateurs à surmonter cette difficulté et permet grâce à une station de contrôle de compter les individus pour évaluer leur population. Depuis les années 1980, des politiques ont ainsi été adoptées pour préserver les poissons. Elles ont conduit à interdire de les pêcher, à créer des passes, voire même des ascenseurs à poissons, et à utiliser des aquabus qui acheminent directement les saumons vers l'océan, sans passer par la centrale de Golfech et ses barrages. Et oui, aussi fou que cela puisse paraître, pour permettre à nos poissons migrateurs de survivre, on doit parfois leur faire prendre la route, quand ce n'est pas les faire naître en éprouvette. Regardez le saumon atlantique. On raconte qu'au Moyen-Âge, les ouvriers toulousains en avaient ras-le-bol qu'on leur en serve à chaque repas. Puis il a complètement disparu de la Garonne avant d'y être réintroduit à la faveur du plan saumon en 1975. Depuis les années 2000, on met à l'eau chaque année, entre avril et juillet, des individus qu'on a fait naître dans des piscicultures dédiées. Un suivi est fait sur les hauts bassins de la Garonne pour observer les zones de reproduction et tous les ans, des pêches électriques, une méthode d'inventaire, réalisée au mois de septembre, permettent de voir si la reproduction a bien fonctionné. Un saumon peut vivre jusqu'à 10 ans et sa maturité sexuelle est relativement tardive, variant selon les individus entre 1 et 3 ans. Après quoi il quitte l'océan pour remonter les cours d'eau afin de frayer où il est né et où il a grandi. Tout cela prend beaucoup de temps. Et comme si la multiplication des obstacles et la disparition de leur milieu naturel ne suffisaient pas, les saumons ont aujourd'hui à faire face à un nouveau péril, celui du poisson silure. Ce long et grand prédateur à la gueule plate portant moustache, originaire d'Europe orientale et introduit artificiellement par les pêcheurs, s'est largement développé en Garonne et vient notamment chercher ses proies là où elles sont les plus faciles à attraper, dans les passes à poissons. Cet outil de survie peut ainsi se transformer en véritable piège. Car il ne faut pas croire, certaines espèces s'accommodent, voire bénéficient de l'artificialisation des cours d'eau et des diverses mutations hydrographiques. Malgré tout, le fleuve abrite aujourd'hui aussi bien des poissons que des serpents, des insectes, des mollusques et pas moins de 400 espèces de végétaux. Mais ici, la question du maintien de la diversité des écosystèmes pose directement celle du rôle que nous, êtres humains, nous y octroyons. Il est clair qu'aujourd'hui, dans le cas du fleuve, nous nous posons en chef d'orchestre.